l'initiative à accompagner le président de la République jusqu'à la tribune centrale où il va prendre la parole maintenant. Mesdames, Messieurs, le président de la République.
Je demande à l'assistant de bien vouloir s'asseoir. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, une irréfutable vérité a grandi le caractère protocolaire de la cérémonie du jour, élargi le chapitre constitutionnel fixant la modalité de notre rencontre et amplifie les dimensions de cette tribune. Qu'on la veuille désigner, cette vérité, du nom de consensus consacré par de longues traditions démocratiques et républicaines, qu'on la veuille exprimer en approfondissant la souveraine autorité du suffrage collectif, on aura obtenu que de dénommer l'impétueux courant populaire de l'adhésion des masses à notre révolution. Certes, s'il est réconfortant pour le leader et le militant d'expérimenter la profondeur et la densité de l'engagement des majorités, il n'est pas moins profitable d'en rechercher et d'en identifier le mobile fondamental. Au terme d'une telle démarche, l'un et l'autre gagneront de puiser la somme des certitudes susceptibles de raffermir la foi dans la légitimité de la cause et de confirmer le caractère scientifique des moyens de la conquête en marche. Je vous exhorte à questionner l'attachement de plus en plus manifeste de nos masses au gouvernement de la Révolution. Vous découvrirez justement avec moi que la réponse est impliquée à la fois dans l'orthodoxie de notre quête de progrès et dans l'assurance de toute la catégorie de la collectivité d'être mobilisée par un combat qui concerne leur propre destin. Et j'illustre ce constat en livrant à votre réflexion la suggestion d'un brillant théoricien occidental qui écrit « Le plan est devenu la loi des nations modernes. Il y signifie à la fois l'enchaînement logique des réalisations techniques et le rassemblement des énergies dans la perspective d'une grande entreprise. Mais il y faut aussi que le peuple soit associé à la construction de son avenir. Quoi de plus exaltant que la mise en valeur des ressources nationales que de travailler à l'amélioration progressive du niveau de vie d'une nation. Tels sont, n'est-ce pas, mesdames et messieurs, les membres de l'Assemblée nationale, les tenants et aboutissants de notre entreprise de développement. Par sa philosophie et son action, la révolution au pouvoir entreprend de créer un cadre de vie conforme aux aspirations et besoins réels de l'homme haïtien. Sa dynamique transforme et la mentalité et les institutions, aménageant de nouveaux canaux de communication, d'échange et d'évolution. Ainsi, le processus de régénération du pays s'est acquis des titres inaliénables à la légitimité. D'ailleurs, il s'articule sur la vivante coopération de tous les secteurs et catégories de la vie nationale. Cependant, les pouvoirs publics y jouent un rôle privilégié de transmission et de cohésion. Dans cette optique, l'action du département de l'Intérieur et de la Défense nationale est orientée vers la conscientisation et la mobilisation chaque jour plus accentuée des populations autour des démarches du gouvernement de la République dont les thèmes et objectifs visent au raffermissement des liens spirituels et matériels qui unissent les membres de la communauté nationale. Il a donc postulé la recherche concertée de solutions harmonieuses aux problèmes qui se posent à la collectivité. D'où la nécessité d'un climat fécond, de dialogue et de paix, l'instauration d'institutions adaptées aux exigences de la conjoncture et susceptibles de les maîtriser. À cet effet, et sur mes instructions, la Secrétaire d'État de l'Intérieur et de la Défense nationale revisera ses structures actuelles afin qu'elles puissent appréhender de façon intelligente et ponctuelle la mouvance des faits significatifs de la vie nationale. Cette réforme, qui s'inscrit dans le contexte de ma politique de décentralisation, insufflera une vigueur nouvelle aux préfectures et aux communes, les habilitant ainsi à répondre avec efficacité à leur vocation régionale. Dans la poursuite de cet objectif, les interventions régulières du département de l'Intérieur et de la Défense nationale se rentabiliseront à partir de celles du secteur privé. Aussi est-il primordial de maintenir et d'entretenir le climat de paix et de stabilité qui offre à l'investissement privé les garanties d'épanouissement. Il faut s'attendre qu'avec ma politique de décentralisation et ses diverses implications se résorbe en partie le grand problème de l'exode rural. L'environnement immédiat satisfaisant mieux les vœux des collectivités. Dois-je souligner une fois de plus que les options de mon gouvernement reposent non seulement sur la décentralisation, mais encore sur une distribution équilibrée de la justice. Car la confiance nationale et la cohésion du corps social se renforcent toujours à la stricte application des lois. Les accélérations imprimées au rythme de l'existence nationale trouvent leur résonance tant dans l'esprit de justice que dans les entités judiciaires du pays. Expression d'une révolution essentiellement populaire, dans le sens élevé et authentique du terme, mon gouvernement recherche l'adéquation des structures juridiques et des instruments de répartition de la justice aux nouvelles diligences de notre communauté. C'est ainsi que la Commission de refonte des codes a proposé, au cours de l'année écoulée, tout un train de mesures qui ont été entérinées et ont reçu leurs sanctions légales. Le profil qui s'en dégage, englobe presque tous les aspects du cadre de vie nationale et témoigne de la quête permanente de solutions opportunes. De même, mon souci d'équité a ménagé à la femme haïtienne une place privilégiée dans mes préoccupations. En effet, l'accession pour la première fois en Haïti d'une femme à la magistrature concrétise une étape importante de l'évolution du statut légal de nos concitoyennes. Évolution qui débouchera cette année leur libération totale et définitive. Pour obtenir son plein effet, cette dynamisation de notre environnement légal doit pouvoir compter sur des hommes prêts à la comprendre et à l'appliquer. Dans cette optique, et avec la sagesse qui préside à toutes les entreprises gouvernementales, le rajeunissement des cadres vise concurremment avec l'organisation de séminaires de recyclage et l'adjudication de véhicules tout-terrain au parquet de province le maximum d'efficacité de l'appareil judiciaire. La réorganisation et la modernisation projetée des archives nationales contribueront à la gamme de prestations de cette importante source de référence légale. L'esprit se réconforte à l'analyse des activités la commission agraire qui s'attache à faire respecter les droits de propriété des citoyens, ce qui garantit à l'investissement privé la jouissance et l'évolution de ses entreprises, l'encourageant à accroître son potentiel d'intervention. Il en résulte une production nationale en courbe ascendante qui nous rapproche chaque jour un peu plus de l'autosuffisance désirée. Cependant, avant que d'accéder à l'autarcie projetée, l'économie nationale doit tenir compte des impératifs du marché mondial. Aussi, mon gouvernement veille-t-il à empêcher que les fluctuations des cours et leurs conséquences inflationnistes ne viennent trop perturber le circuit local et trop réduire le pouvoir d'achat de la population. L'action anti-inflationniste porte de manière privilégiée sur les produits de première nécessité. En consentant des sacrifices au niveau des taxes perçues à l'importation, l'État traduit sa volonté de stabiliser les prix à la consommation. Par exemple, pour ce qui a trait aux produits pétroliers, un système de pondération reportant sur la gasoline un certain pourcentage de la marge bénéficiaire du diesel et une diminution des taxes et droits d'accises perçus sur ces produits ont limité les effets de la hausse internationale qui affecte les carburants. Alors que la Cour mondiale accusait en janvier 80 une augmentation de 33% pour la gasoline, de 37% pour le diesel, de 23% pour le kérosène, sur le marché local, les prix au détail n'en ont subi respectivement les contre-coups que dans la proportion de 17,26% et 14%. La demande de relèvement du prix du sucre raffiné et du sucre populaire formulée par la ASCO en novembre dernier a été examinée et une solution heureuse trouvée dans des délais relativement courts, bien que le prix de la canne ait été uniformisé à 55 gourdes la tonne. Le consommateur local a été protégé en même temps que le producteur de canne était assuré de revenus améliorés. Ces deux évocations sont significatives de la volonté de mon gouvernement de maintenir à des paliers acceptables le coût de la vie et d'élargir le cercle de la consommation. Pour cela, concomitamment aux mesures de détaxation et aux jeux de stabilisation, l'implantation d'unités industrielles ou agro-industrielles incorporant dans le produit fini une part de plus en plus grande des matières premières d'origine locale est vivement encouragée. Un projet de code garantissant les investissements nationaux et étrangers fait actuellement l'objet de consultations entre les principaux ministères et organismes d'État concernés. Ce code de droit et obligation de l'investisseur viendra asseoir sous des bases juridiques encore plus solides les démarches de l'Office national de la promotion industrielle ONAPI et apportera à cet organisme déjà opérationnel une dimension lui assurant le maximum d'efficacité. Une éloquente preuve de la concertation dynamique entre le secteur privé et public se manifeste dans tous les domaines de l'entreprise économique, dont les huiles essentielles. L'intelligente cohésion entre les producteurs et le département du commerce et de l'industrie a permis de réaliser à 26 $ la livre la vente de 131 fûts de 450 livres chacun, alors qu'une action dispersée aurait affecté ce produit de prix à l'exportation beaucoup moins intéressant. Saisissant de plus l'opportunité offerte par l'augmentation de la valeur marchande de la pide, ce département a engagé une série de mesures visant à l'accroissement de la production par l'extension des zones de culture du sisal et l'amélioration du rendement du paysan en pitillé. À cette fin, un programme de vulgarisation de petits décortiqueurs susceptibles d'être utilisés sur une base coopérative est actuellement en cours d'exécution. Il comporte la mise en place aux Côtes de Fer de 10 de ses unités par an sur une échelle de 5 ans et permettra de passer d'un rendement de 5 kg de pitillé à 125 kg pour une équipe de 7 ouvriers. La réalisation d'un tel programme possède une planification rigoureuse qui entend se saisir des possibilités de la conjoncture pour donner à tous les compartiments de l'activité nationale les moyens de jouer de partition entreprenante dans le processus du développement. Aussi, le secteur agricole bénéficie-t-il d'une action soutenue qui se traduit par un graphique nettement ascensionnel d'investissement. L'effort national se renforçant de l'aide bi- et multilatérale a injecté dans ce circuit 255 872 755 gourdes pour l'exercice 79-80, soit plus de 10% en su de ce qui avait été investi l'année d'avant. Une vingtaine de projets, axés principalement sur la production de denrées à vocation alimentaire, industrielle ou d'exportation, sont en cours d'exécution. Plus de 55 000 hectares ont été ainsi mis en valeur. Le barrage partiteur des Pédernales pour l'irrigation de 500 hectares, le forage de puits pour l'arrosage de près de 1 500 hectares dans la plaine d'Agonaïve, de 1 600 à Cavaillon, la réparation du système d'irrigation dans la plaine de Saint-Raphaël, la mise en chantier de petits réseaux à Dubreuil, Tomazo, Barrette, pour n'en citer que quelques-uns, sont des jalons posés sur la route qui mène à l'affranchissement du paysan haïtien des contraintes climatiques. Des études sont en cours pour l'arrosage de 2500 hectares à Marie-Barreau, 1500 à Fonds-Parisien et 3000 à Bas-Cônois. En ce qui a trait à l'élevage, avec l'assistance de la FAO, du PNUD, du FENU-OCAI, à Papaye, à Tamarigné, à Savane-Zombie, un programme national contribuera à améliorer l'absorption protéique de la population. La lutte permanente contre les maladies des animaux de pâturage ou de basse-cour, des implantations d'usines d'aliments pour bétail et d'engrais s'analyse comme des acquis caractéristiques de ma politique de rentabilisation maximale dans ce domaine. Ainsi s'interprètent également les projets de plantation et de régénération du café qui, malgré les obstacles, se sont soldés cette année par des résultats plus que probants. Il se poursuit une étude de commercialisation de cette denrée à partir de coopératives. Pour modeste qu'il soit, les effets de la campagne pour la conservation des sols et la reforestation ne sont pas négligeables. La constitution d'un domaine forestier national, les travaux de pépinières et de plantations d'arbres, la mise en place de structures mécaniques de protection des sols et de rétention des eaux, les programmes d'aménagement de bassins hydrauliques Olimbé, à Basset, à Titanien, au Monde Hôpital, etc., précise la trajectoire d'une ligne d'action qui s'accentuera au fil des années. Les réalisations relatives à l'agriculture et à l'élevage se complètent de l'introduction par l'acquisition de 8 chalutiers, de la pêche industrielle en Haïti et de la production d'alvin pour l'ensemencement des bassins piscicoles en projet ou en construction à travers le territoire. C'est un ensemble, mesdames et messieurs les membres de l'Assemblée, qui englobe également la mise en évidence pour l'exploitation éventuelle des ressources du sous-sol. Le département des mines et des ressources énergétiques poursuit activement les travaux inscrits au plan quinquennal 76-81. L'objectif en est la promotion et le développement d'une industrie minière et l'exploitation rationnelle des ressources énergétiques nationales. Aussi, la campagne poussée de reconnaissance et de prospection générale se poursuit-elle avec intensité à l'échelle du pays. Les informations recueillies sont attentivement examinées par les responsables du département et des dispositions adoptées pour stimuler les investissements tant nationaux qu'étrangers. Devant le caractère prioritaire accordé aux problèmes énergétiques pour faire face à la crise pétrolière mondiale, des efforts particuliers sont déployés dans la recherche et le développement des sources d'énergie non conventionnelles. Un centre de recherche en énergie est actuellement en construction, tandis que des études approfondies en bioénergie et énergie solaire seront financées par l'Agence internationale pour le développement et l'Agence culturelle et technique. La première phase des travaux de prospection géothermique engagée avec la collaboration de l'Organisation latino-américaine de l'énergie est achevée et l'interprétation des données rassemblées révèle l'existence d'un potentiel géothermique de basse et moyenne enthalpie dans les régions de source chaude. Bientôt, la deuxième phase du projet commencera avec le forage des sites identifiés en vue d'obtenir une évaluation définitive de nos possibilités. Les travaux de forage devront permettre de préciser le tonnage du gisement de lignite de Mahissade, estimé à environ 40 millions de tonnes, ont débuté depuis le mois de janvier 1980 avec la collaboration de la République fédérale d'Allemagne. Au terme d'un contrat signé par mon gouvernement avec la Anschutz Overseas Corporation, cette compagnie de recherche pétrolière vient d'achever, en février dernier, une campagne sismique au large des côtes de la presqu'île du Sud. L'interprétation des données continue en prévision de la phase des forages offshore dans la même région. D'autre part, la compagnie Cooks entreprendra dès le mois prochain une campagne sismique dans la plaine du cul-de-sac. Relativement aux minéraux métalliques, le nouvel objectif or, cuivre, argent mis en évidence du côté de la Grande Rivière du Nord fait actuellement l'objet de forages intensifs dans l'optique d'une première évaluation. En ce qui concerne les minéraux non métalliques, l'accent a été mis sur la reconnaissance d'indices d'argile, de sable siliceux. Les travaux d'expertise des indices de sable bitumeux de la Grande Anse se poursuivent par la reconnaissance géologique de surface et le percement d'une route d'accès à partir de Sestillon. Une étude de factibilité complète sera financée par la Banque interaméricaine de développement. Enfin, après 2 années de prospection, les premières carrières de marbre ont été ouvertes dans la région des Gonaïves. Un effort conjoint des secteurs publics et privés a favorisé l'installation d'ateliers de traitement entraînant la commercialisation du produit fini. La construction d'une usine pilote à Delmar permettra bientôt de donner un plus grand essor à cette industrie. La révolution économique implique une croissance soutenue du secteur minier et énergétique. Les premiers résultats permettent tous les espoirs et grâce à une étroite coopération entre l'administration publique et l'investissement privé, le peuple haïtien pourra remporter une victoire décisive dans sa lutte pour le développement. Aucun sommet ne nous est inaccessible. Les plus grandes ambitions nous sont légitimement permises dans l'exécution du projet de société progressiste de la révolution économique. Car mon leadership multiplie son action, non seulement dans tous les compartiments des possibilités matérielles, mais encore à tous les niveaux promotionnels de l'humain. Concurremment à la prospection et l'exploitation des ressources naturelles, le mécanisme des relations entre les catégories de travailleurs et les secteurs de la production est pris en main avec une vigilance permanente. Aussi, en décembre dernier, le 3e Congrès national du travail, tenu ici même au Palais législatif, a défini les bases du plan d'action présente et future de mon gouvernement en ce qui a trait aux affaires sociales. Grâce à l'assistance technique du Bureau international du travail, il a été procédé à un relevé exhaustif des entreprises industrielles en vue de meilleur contrôle des conditions de travail. Outre l'augmentation de salaire accordé aux ouvriers et travailleurs des entreprises privées, agricoles, commerciales et industrielles, il convient de souligner que le gouvernement haïtien a ratifié officiellement cette année la Convention de l'Organisation internationale du travail sur la liberté syndicale, manifestant ainsi sa ferme volonté d'encourager le développement de ce mouvement dans notre milieu. En raison de l'évolution socio-économique du pays. L'ajustement du Code du travail François Duvalier s'avère désormais de toute urgence. En effet, depuis sa promulgation en 1961, divers organismes nouveaux ont vu le jour. De nouvelles lois réglementant les conditions de travail ont été votées. C'est pourquoi une commission a été formée au ministère des Affaires sociales pour l'actualisation de ce code. Dans le cadre de l'éducation ouvrière, 18 centres répartis en zone métropolitaine assurent à quelque 2000 ouvriers, artisans et gens de maison le pain de l'instruction. 9 nouveaux centres ont été ouverts dans différentes villes et localités de province, en même temps que 2 autres établissements d'art ménager fonctionnent à Port-au-Prince. Avec le concours de la Banque interaméricaine de développement, l'Office national proposé à cet effet assure l'exécution d'un projet pilote pour le développement de l'artisanat consistant en un atelier de textile établi à Delma et une fabrique de tapis installée à Forjac. Pour la supervision d'un expert étranger, 39 moniteurs s'entraînent actuellement à l'enseignement de nouvelles techniques dans la vannerie et le tissage des fibres végétales. Durant l'exercice écoulé, 85 nouvelles entreprises et 6214 nouveaux assurés ont été affiliés à l'ONA, portant le nombre total des assurés à 77 744. Au cours de cette même année, 9327 prêts représentant une valeur de 5 729 893 gourdes ont été accordés. 94 familles ont bénéficié de la restitution des cotisations salariales et patronales perçues par l'ONA aux droits de leurs parents défunts antérieurement affiliés à ce régime d'assurance sociale. 193 personnes frappées d'incapacité de travail ont reçu le montant intégral des cotisations accumulées à leur compte individuel. Une impulsion sensible a été donnée à l'Office national du logement, qui se traduit par l'étude et la mise en place de grands projets de rénovation urbaine et de construction de logements sociaux. En fonction de la croissance démographique et de la migration vers la ville, il faudra réaliser dans les 10 prochaines années un programme de construction de 40 000 logements. Dans cette perspective, des dispositions ont été prises pour l'implantation dans le meilleur délai de 5 500 logements sociaux à Port-au-Prince et dans 11 des principales villes de province. Outre les projets de Bouc-en-Brault, 4 000 logements par an pendant 10 ans, et celui de Saint-Martin, dont la réalisation a commencé, il convient de mentionner la construction du complexe résidentiel Jean-Claude Duvalier à Delma, qui pourra loger 1 000 familles à revenus moyens. Déjà, les voies d'accès ont été percées et les travaux de lotissement se poursuivent. En vue de réduire la crise du logement à Port-au-Prince, la firme Bouygues Vorm a été engagée pour une étude complète d'un projet de 6 000 logements à bon marché. Mon gouvernement a a également donné son accord pour l'érection de 2000 sites et services aux Cap-Haïtiens et aux Caire. Ce projet sera financé par la Banque mondiale. La firme haïtienne Tessina a été retenue pour son exécution sous la supervision de l'Office national du logement. Un village agro-industriel verra bientôt le jour à Bon Repos et s'étendra sur une superficie de 600 carreaux de terre. Il est destiné à promouvoir la petite industrie et l'artisanat en zone rurale en établissant le système des groupements communautaires. Hautement conscient du rôle primordial de l'éducation nationale dans le processus de développement économique, j'ai instruit la responsable du ministère de conduire sans délai l'aménagement d'un système éducatif adapté à nos besoins réels et spécifiques et susceptible d'accélérer le développement social, culturel et économique du pays. Les premiers résultats ont été plus que satisfaisants. En effet, 50 nouvelles salles de classe en milieu urbain et 476 en milieu rural ont été inaugurées au cours de la période 78-79. 400 halls seront prêtes à accueillir 20 000 enfants avant la prochaine année scolaire. 3 nouvelles écoles normales, dont l'une au Cap-Haïtien, l'autre au Gonaïve et la dernière à Port-au-Prince, pourront recevoir dès octobre 80 720 élèves maîtres de l'enseignement primaire. À la fin de 1984, 14 lycées totalisant 500 salles de classe seront réaménagés en vue d'absorber entre 25 à 30 000 élèves du secondaire. La décentralisation administrative de l'éducation nationale est programmée par l'ouverture prochaine de micro-bureaux d'éducation dans les diverses villes de province. À cette fin, 22 inspecteurs suivent à Port-au-Prince un stage de formation organisé par la direction de planification du ministère en vue de la préparation des gestionnaires appelés à administrer ces nouveaux bureaux. À titre d'incitation, le salaire du personnel enseignant a été doublé, tandis qu'un nouveau projet de statut des professeurs est actuellement à l'étude pour permettre à tous les professionnels de l'éducation de travailler désormais dans un climat idéal. Du point de vue technique, il y a lieu de signaler qu'au sein de l'Institut pédagogique national fonctionne en permanence un comité de curriculum travaillant à l'amélioration continue du programme réformé de l'enseignement primaire actuellement en expérimentation. Et parce qu'une réforme ne peut être totale que dans la mesure où l'on s'évertue à agir sur l'ensemble des paramètres conditionnant le fonctionnement d'un système éducatif, la formation des enseignants n'a point été négligée. Au niveau de l'enseignement primaire, 1061 instituteurs ont été formés en 78-79. 1200 autres le seront au cours de cette année. Tandis qu'un projet d'harmonisation des programmes de formation établi par l'Institut pédagogique national, conjointement avec les projets d'éducation suivants: Banque mondiale, gouvernement haïtien, Centre d'éducation intégrée pour le développement rural, CIDER, le DRIP et le projet intégré de la région du Nord-Ouest, PIRNO, doit faciliter l'obtention d'un certificat équivalent à celui de l'école normale avant 1982. Dans le même temps, 89 inspecteurs, instructeurs et 112 professeurs de normale ont été sensibilisés à la réforme. Deux séminaires de formation seront organisés sous peu à leur intention. Dans le secteur du secondaire, les professeurs de mathématiques actualisent leurs connaissances à partir d'un programme préparé par des spécialistes de l'IPN. 938 autres participent à un recyclage en évaluation, méthodologie et docimologie pour une durée de 15 jours. Par ailleurs, des contacts sont établis avec les universités étrangères pour l'initiation des professeurs du secondaire à la méthodologie de la recherche. L'objectif étant de former des conseillers pédagogiques polyvalents pour l'établissement à brève échéance des bureaux régionaux d'éducation. D'autre part, une mission conjointe de spécialistes de l'UNESCO et de mon gouvernement a inséré dans le cadre d'un projet global la construction de 700 salles de classe indépendamment de celles mentionnées plus haut. Ils ont en outre prévu d'équiper les lycées de laboratoires et de bibliothèques, de construire à travers le pays 5 écoles techniques et professionnelles, de rénover la structure de l'école normale supérieure, réservoir de nos maîtres de l'enseignement secondaire. Il ne s'agit point, comme vous vous en rendez compte, d'une simple concertation d'efforts conjoncturels, mais plutôt d'un authentique et vaste mouvement stratégique embrassant le présent et le futur. L'homme haïtien est appréhendé à toutes les phases de son existence individuelle et sociale par une action planifiée qui accentue sa charge sur les champs disponibles et propices de la jeunesse. C'est pourquoi, d'ailleurs, en dépit de l'importance de l'infrastructure indispensable à son épanouissement, le domaine de l'éducation physique et des sports bénéficiera d'investissements substantiels. À travers nos principales villes de province, des complexes sportifs et des gymnasiums modernes seront implantés dans les prochains jours, le matériel sportif étant déjà sur place. Des instructions ont été passées au département de la jeunesse et des sports afin de doter le Cap haïtien d'un parc olympique moderne pour la pratique de l'athlétisme et d'autres disciplines sportives. Un parc identique sera sous peu érigé dans la métropole du Sud. D'autres villes ne tarderont pas à recevoir leur complexe sportif, vu que ce programme doit s'étendre au coin les plus reculés du territoire. À Port-au-Prince, dans la zone sud, je viens d'accorder au ministère de la Jeunesse et des Sports 3 hectares où un complexe omnisport et un gymnasium moderne complet seront aménagés. Ce centre desservira la population scolaire et extrascolaire de Carrefour et sa périphérie décongestionnant la zone métropolitaine. Dans l'ère du bicentenaire, ce département entreprend conjointement avec celui des travaux publics, transports et communications l'érection d'un parc de jeux qui offrira aux jeunes de Bas-Petite-Chose et des environs la possibilité de s'adonner confortablement au sport de leur choix. Projet d'envergure qui s'étendra sous la berge occidentale du boulevard Harry Truman. Dans la zone de Saint-Martin, où la population estudiantine n'est point négligeable, j'instruis mon ministère de la Jeunesse et des Sports qu'il entreprenne l'installation d'une piste olympique artificielle pour inciter les jeunes à s'adonner à l'athlétisme suivant les normes internationales. Des études sont achevées pour la complète restauration du centre sportif de Saint-Martial. Parallèlement, des recherches s'effectuent dans tous les secteurs de la capitale dans le but de trouver des terrains disponibles et aptes à recevoir les structures propices au développement du sport de quartier. L'ouverture à brève échéance de l'École normale d'éducation physique et des sports stimulera le renouvellement des cadres techniques et la préparation scientifique de maîtres en éducation physique et de moniteurs appelés à enseigner les différentes disciplines sportives. Considérant les immenses besoins de la jeunesse, tant du point socio-éducatif que des loisirs, le département concerné projette également la création de maisons de la culture. L'importance d'une complémentarité des deux volets d'intervention, sport et socio-éducation, correspond largement à mes préoccupations. L'amélioration et la nouvelle modalité d'organisation et d'actualisation, telles les stages de formation pour des animateurs au niveau du théâtre, des arts populaires, des arts créatifs, l'encadrement des mouvements de jeunes, leur prise en charge pendant les vacances par l'organisation de festivals et de camps, nous permettront encore plus de répondre aux besoins de cette jeunesse, d'être à l'écoute de la population et de les impliquer dans l'action progressiste de mon gouvernement. Mesdames et Messieurs les membres de l'Assemblée nationale, la marche vers le progrès collectif est définitivement engagée parce que soutenue sans digression par la connaissance du CID des éléments de freinage et de blocage. Parce que strictement orientée vers l'élimination progressive des inégalités passées et encore persistantes entre les agglomérats urbains et la communauté rurale du pays, option qui sert de fondement idéologique à la politique générale de mon gouvernement. Et c'est précisément dans le secteur de la santé publique où ces disparités s'avèrent plus manifestes que l'action gouvernementale a été plus effective si l'on tient compte de toutes les réalisations du début même de l'ère du Valérien et qui se sont amplifiées au fur et à mesure que le Jean-Claudisme déclenchait au sein de toute la couche sociale du pays une prise de conscience plus nette des besoins réels du peuple haïtien. Aussi, malgré la nécessité d'un certain recul historique pour apprécier avec précision ses activités dans le domaine social et en ce qui concerne particulièrement la santé publique, il est indéniable que la révolution au pouvoir est et demeure à l'origine d'une nouvelle orientation de la politique sanitaire nationale reposant désormais sur la disponibilité des services médico-sanitaires d'un point à l'autre du territoire de la République. Cette prise en charge de l'ensemble de la population haïtienne n'a pu être projetée que par l'instauration, dans le cadre de notre plan national de santé, d'un nouveau système de prestations de services, le système de régionalisation sanitaire qui sera bientôt parachevé dans les départements du Sud et du Nord, en attendant son extension aux autres régions du pays. Bien que l'opinion publique soit déjà informée de l'ampleur du programme d'équipement du département de la santé publique et de la population dans les régions sud et nord du pays, comme l'attestent les récentes mises en service des centres hospitaliers de Miragouane, d'Aquin et de Fort Liberté, il convient de souligner que 38 localités dans le nord et 22 dans le sud seront bientôt dotées de leurs propres établissements de santé, lesquels seront convenablement pourvus en équipement, services de base, personnel médical, paramédical et administratif. La finalité sociale de la santé n'est plus à démontrer. C'est une vérité admise que l'amélioration de la situation sanitaire contribue notablement au développement qui implique à la fois le progrès social et le progrès économique. Comme l'a fait remarquer le directeur de l'Organisation mondiale de la santé, développement sanitaire, développement économique et développement social sont étroitement imbriqués. Mon gouvernement l'a si bien compris qu'il ne cesse d'intensifier ses efforts afin de fournir à la collectivité haïtienne des prestations médico-sanitaires constamment améliorées. Aussi est-il légitime d'espérer que dans un avenir plus ou moins proche et compte tenu de la nouvelle orientation des activités du département de la santé et de la population, les conditions de santé du peuple haïtien atteindront le niveau optimal qui lui permettra de conduire victorieusement la lutte contre le sous-développement. Il est, on ne peut plus, évident que la couverture sanitaire totale du territoire ne saurait se concevoir sans le support d'une politique de croissance des communications. La révolution au pouvoir, selon les termes du plan quinquennal 76-81, y pourvoit en implantation d'infrastructures routières garantissant l'accès en toute saison aux différentes zones du pays et favorisant l'expansion des services de transport. Conçu dans une perspective générale, ces mesures structurelles concourent également à la réalisation d'objets spécifiques pour l'exercice 79-80, comme l'achèvement de la Nationale Sud et de 168 km de routes secondaires agricoles, la construction progressive de près de 300 km de voies de seconde classe en asphalte et de bretelles de raccordement. Ainsi que l'étude en cours de 101 km de routes secondaires agricoles et de voies d'accès à 7 ports de cabotage et le démarrage de travaux urbains liés directement ou indirectement à l'amélioration et à l'extension du réseau de voirie municipale. Les domaines du transport maritime et du transport aérien sont eux aussi englobés dans cette action d'ensemble. Les travaux portuaires de la capitale sont achevés. Port de Paix, Jérémie et Port-au-Prince vont s'équiper chacune d'un port de cabotage. L'amélioration du système national de phares et de balises est entamée. L'extension de la piste de l'aéroport international François Duvalier et l'agrandissement de l'aérogare sont acquis à l'avenir immédiat, tandis que se profile la réhabilitation des aérodromes de Jérémie, Caille, Port de Paix et la réorganisation de notre aviation civile. Les antennes de la télécommunication, sous l'impulsion gouvernementale, participent elles aussi à cette stratégie de progression et d'amélioration qui se traduit par l'extension des réseaux téléphoniques de Port-au-Prince et du Cap-Haïtien, le montage du nouveau central de Jérémie et la création de 3 postes radiocommunication à Fort-Liberté, Lagonave et Port-de-Paix. Pour assurer leur totale participation à l'œuvre globale de développement menée par la révolution au pouvoir, la TPTC continue d'investir de notables efforts techniques et financiers dans la distribution de l'eau potable à travers la République et la production de l'énergie. Dans l'un et l'autre secteur se dégage des perspectives et résultats probants qui se traduisent d'une part pour l'eau potable à travers l'installation de 100 petits systèmes hydrauliques dans la communauté provinciale, l'amélioration prochaine des réseaux de Jérémie, Cap-Haïtien, Caille, Gonaïve, Jacmel, l'implantation de nouvelles conduites à Saint-Marc et Léogane. D'autre part, pour l'énergie, à travers l'augmentation de la capacité énergétique du Cap, à laquelle viendront s'ajouter, à court et moyen terme, des usines hydroélectriques à La Chapelle, l'Artibonite, Moumans, Samana, Caracol, Roche-Plate, Somaturine. Mesdames et messieurs les membres de l'Assemblée nationale, le relief saisissant de cet équipement multiforme de la société haïtienne pour le progrès gagne encore en précision dans l'éclairage des interventions gestionnaires de la révolution économique. En effet, sous la pression des circonstances nées de la conjoncture économique national et international, et dans le cadre du plan d'action immédiat, mon gouvernement a multiplié ses interventions dans le domaine économique et social par des mesures tendant à lutter contre le chômage et l'inflation, à réduire les inégalités sociales et à accélérer le processus du développement national. les multiples investissements effectués à travers le pays dans le but de protéger l'individu haïtien contre les risques de la vie, de développer sa personnalité et d'améliorer sa productivité ont favorisé ces interventions conscientes et délibérées de la puissance publique en faveur de nos masses démunies grâce aux moyens financiers prévus dans le budget de la République. Dès le début de l'exercice fiscal en cours, mon gouvernement a entrepris la réorganisation de nos mécanismes financiers et institutionnels afin de doter le pays de structures fiscales et financières adaptées aux nouvelles stratégies mises en œuvre au département des finances et des affaires économiques. Tout en réalisant sa mission essentielle de rechercher l'équilibre global macroéconomique à moyen et long terme, les finances publiques se doivent de participer directement ou indirectement à la promotion des investissements tendant à l'amélioration de l'équipement matériel et humain et de participer à la bataille du développement national qui se livre sur tous les fronts. C'est pourquoi, au sein du département des finances et des affaires économiques, des efforts importants sont actuellement mis en œuvre pour que l'économie haïtienne soit pourvue de mécanismes régulateurs pouvant rétablir constamment les conditions d'un équilibre économique dynamique tout en imprimant aux activités de production, de distribution et d'échange l'élan nécessaire à un développement harmonieux. Conformément à mes instructions, une orientation nouvelle a été donnée à la politique fiscale et financière en vue d'accélérer le rythme des transformations économiques et sociales rêvées par mon gouvernement. C'est dans cette perspective qu'un projet de loi tendant à la restructuration du département des finances et des affaires économiques a été élaboré afin de prévoir une meilleure répartition des tâches et des fonctions et un élargissement des cadres pour les adapter aux exigences nouvelles de la politique de développement national. En effet, le processus de développement met le système fiscal haïtien non seulement devant un problème d'adaptation progressive à des structures économiques, administratives et sociales en transformation, mais aussi devant la nécessité d'abandonner le principe de la neutralité pour s'intégrer de façon dynamique dans la politique économique. Dans cet ordre d'idées, des dispositions seront prises en vue de remanier certaines lois fiscales considérées comme dépassées par l'évolution des structures administratives et institutionnelles, notamment les lois régissant l'impôt locatif, le CADAS, l'accès à la propriété, les hypothèques et les assurances, ainsi que certaines dispositions de la loi régissant l'impôt sur le revenu devront être modifiées et adaptées aux nouvelles situations conjoncturelles et structurelles. La réforme fiscale, initiée au mois de novembre 1978 et qui tendait à son premier palier à la fiscalisation de toutes les ressources de l'État, s'est révélée en tout point un succès. En effet, les recettes globales de l'État sont passées d'un montant de 171 millions de gourdes pour les quatre premiers mois de l'exercice fiscal 1978-1979 à une valeur de 239 millions de gourdes pour la même période de l'exercice en cours, ce qui dénote une augmentation de recettes de l'ordre de 68 millions de gourdes durant les quatre premiers mois du présent exercice fiscal par rapport à l'année dernière. Naturellement, de nouveaux problèmes d'ajustement administratif se sont posés au niveau des services de la comptabilité publique et du Trésor du département des finances et des affaires économiques, car cette réforme fiscale devait entraîner une modification d'ordre conceptuel et structurel dans les mouvements de trésorerie et au niveau du budget de l'État. En effet, le budget de la République n'est pas seulement un état prévisionnel et récapitulatif des comptes, de recettes et de dépenses des administrations, mais il est devenu un plan financier, un document à la fois juridique et comptable qui reflète les moyens mis en œuvre et les objectifs de nature économique et développementiste poursuivis par mon gouvernement. De même, le Trésor public entend que